Journal des sciences.
À l'occasion de la journée de lutte contre la maladie de Parkinson, qui se tenait mercredi dernier, une étude prédit une augmentation de 56% du nombre de malades d'ici 2050 et confirme qu'elle menace particulièrement les agriculteurs et les habitants de régions agricoles. Zoé.
Oui, selon cette étude qui nous est parvenue dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire qui est publié par l'Agence Santé publique France, les maladies neurologiques représentent la principale cause d'invalidité et la deuxième cause de décès dans le monde, et ça va aller de plus en plus fort. On compte en moyenne 25 000 nouveaux cas de Parkinson par an. 17% des nouveaux cas l'année dernière étaient âgés de moins de 65 ans et ce chiffre va augmenter de 56% d'ici à 2030 avec une personne atteinte sur 120 parmi celles âgées de plus de 45 ans. Alors c'est des estimations qui sont faites par cette étude en tablant sur un taux stable de nouveaux cas et surtout évidemment c'est des chiffres qui sont liés à l'augmentation mécanique de l'incidence de cette maladie avec le vieillissement de la population. L'étude explore bien sûr et surtout le lien qui est aujourd'hui tout à fait reconnu entre l'utilisation de pesticides, l'exposition aux pesticides et la maladie de Parkinson. C'est ce que m'expliquait Alexis Elbaz, il est épidémiologiste et il est directeur de recherche à l'INSERM, c'est l'un des co-auteurs de cette étude.
À l'origine, en fait, il y a une observation accidentelle qui est la survenue de syndrome parkinsonien chez des jeunes héroïnomanes en Californie dans les années 80 qui avaient consommé une drogue frelatée par une molécule qui s'appelle le MPTP, qui est un neurotoxique. Et ces jeunes toxicomanes ont développé donc un syndrome parkinsonien qui ressemble beaucoup à la maladie de Parkinson. Or, le MPTP a une structure chimique très proche de celle du paraquat, qui est un herbicide qui a été très largement utilisé. Cette observation un peu accidentelle qui est à l'origine des études épidémiologiques sur la relation entre l'exposition professionnelle aux pesticides et la maladie de Parkinson. Si cette relation donc avec l'exposition professionnelle aux pesticides est assez bien connue, d'ailleurs elle a conduit la France à reconnaître la maladie de Parkinson comme une maladie professionnelle chez les agriculteurs depuis 2012. En revanche, on sait beaucoup moins bien quelles sont les molécules qui seraient le plus incriminées. Et c'est une question en fait qui est très difficile à étudier parce que les agriculteurs qui ont utilisé des pesticides en fait et qui développent la maladie de Parkinson à un âge assez avancé, très souvent ils ont utilisé une multitude de produits tout au long de leur vie et donc c'est très difficile de faire la part de chacun d'entre eux. Alors une autre approche possible pour étudier cette relation, puisque c'est finalement assez compliqué de connaître toute la liste de produits qu'un agriculteur a pu utiliser, c'est d'aborder la question sous l'angle du type d'agriculture.
Le type d'agriculture donc pratiqué par ces agriculteurs est dans une étude publiée il y a quelques années par son équipe, Alexis Elbaz, avait confirmé qu'en France, en tout cas, c'était largement les viticulteurs, plutôt âgés, chez les viticulteurs, que l'incidence de la maladie de Parkinson était la plus grande. Alors dans cette édition de cette semaine du bulletin, le chercheur et son équipe sont allés plus loin. Ils ont tenté d'évaluer le risque environnemental de cette exposition aux pesticides et le lien qu'il a avec l'incidence de la maladie de Parkinson en regardant justement quelle était l'incidence de la maladie dans la population générale. Il présente donc un résultat original, mais aussi inquiétant, toujours lui aussi lié aux pesticides. Même si ce type d'étude reste méthodologiquement assez difficile à mener.
C'est quelque chose qui a été beaucoup moins étudié. La première étude qui a montré des résultats en ce sens, c'est une étude qui a été faite en Californie. Donc les chercheurs disposaient d'un registre de vente de pesticides qui permet de localiser chaque application de pesticides depuis les années 70. Et donc ils ont étudié le risque de maladie de Parkinson chez des personnes qui habitaient à proximité de champs traités à l'aide de ce registre. Et ils ont montré qu'en effet, les personnes qui habitaient dans un rayon de 500 mètres, je crois, avaient un risque augmenté de maladie de Parkinson, même si ces personnes n'étaient pas elles-mêmes agricultrices. Et donc en France, nous ne disposons pas de ce type de registre, malheureusement. En revanche, on dispose du recensement agricole, qui est un recensement exhaustif des exploitations françaises, qui ne dispose pas d'informations sur le type de pesticides qui sont utilisés dans les exploitations. En revanche, il permet d'obtenir des informations très détaillées sur le type d'agriculture de ces exploitations. Et donc, ce que nous avons fait, c'est mettre en relation l'incidence de la maladie de Parkinson dans les cantons français avec les caractéristiques agricoles de ces cantons. Et ce que nous avons observé, d'une part, c'est que l'incidence de la maladie de Parkinson est plus élevée dans les régions très agricoles et que cette relation est le plus marquée pour les cantons très viticoles.
Et en bref, Zoé, une étude britannique affirme que les couches tard ont un risque de mortalité plus élevé que les couches tôt.
Et cette étude est la première qui méthodologiquement s'attaque sérieusement à évaluer le risque de mortalité en fonction de l'heure du coucher. Elle a porté sur près d'un demi-million d'habitants du Royaume-Uni âgés de 38 à 73 ans. Et elle montre que les couches tard ont un risque de décès de toute cause de 10% plus élevé que les couches tôt, et ce sur une période étudiée de 6 ans et demi. Des études antérieures avaient souligné les taux plus élevés des couches tard pour les maladies cardiovasculaires, les pathologies métaboliques comme le diabète. Les auteurs évoquent un vrai problème de santé publique et préconisent que les couches tard aient par exemple une plus grande flexibilité d'horaire de travail pour pouvoir commencer et finir plus tard. Et de nouvelles données de l'instrument Sphere, installé sur le Very Large Telescope au Chili, révèlent la diversité des disques où se forment les planètes. Sphere, je le rappelle, a été conçu pour dénicher des exoplanètes autour des étoiles proches du Soleil. Il a été utilisé cette fois donc pour observer ces disques de gaz et de poussière, structures éphémères dont la durée de vie ne dépasse pas les 10 millions d'années, ce qui est très court à l'échelle du temps de l'univers, et qui entourent les toutes jeunes étoiles. Les images de l'instrument prouvent que ces disques varient en fait énormément, beaucoup plus qu'on ne le pensait, d'une étoile à l'autre, en termes de dimension, de formes. Certaines sont composées d'anneaux brillants, d'autres d'anneaux sombres, d'autres encore ressemblent clairement à des hamburgers. On a toujours des formes très drôles dans l'espace. Et leur aspect varie nettement également en fonction de leur orientation dans le ciel et pourrait permettre, par exemple, un jour de mieux comprendre la naissance de la Terre.
Et notre deuxième sujet est consacré à la découverte d'une équipe de géologues belges. Ils affirment avoir enfin compris le processus de création du minerai de fer d'origine volcanique, Zoé.
Car oui, vous ne le savez peut-être pas, on exploite aujourd'hui dans le monde deux types de gisements de fer. Le plus gros de ce qu'on a dans le monde vient à 90% de roches sédimentaires, mais 10% de la production minière de fer vient, lui, de gisements dits de type Kiruna, du nom de la plus importante mine de ce type qui est en Suède. Et ce minerai a pour particularité de provenir d'un environnement donc volcanique. Mais jusqu'ici, la formation de ce minerai restait absolument inexpliquée. Olivier Namuré est géologue à l'université de Louvain, en Belgique. Lui et son équipe croient avoir réussi à reproduire et à comprendre ce processus de formation. Ils pensent qu'il serait le fruit de conditions géologiques particulières qui conduiraient à la formation de deux laves distinctes.
Alors nous, l'idée qu'on a eue, qui était assez novatrice, c'est de dire, bon, on a ces gisements qui sont dominés par du fer, qui n'ont probablement pas une composition de lave classique. Par contre, ces gisements, on a observé au Chili et dans d'autres régions du monde, qui sont encaissés dans des roches très classiques qu'on appelle des andésites, qui sont les laves qui sont produites par tous les volcans de la chaîne des Andes. Alors l'idée qu'on s'est posée, c'est est-ce que, si on faisait la somme de ces deux types de roches, c'est-à-dire le minerai d'une part et les andésites d'une autre part, est-ce qu'on arriverait à une lave qui aurait une composition réaliste? Et si c'était une composition réaliste, est-ce que cette lave est capable de former des gisements de fer? Donc c'est ça qu'on a essayé de reproduire au laboratoire. Ce à quoi on ne s'attendait pas, c'est qu'en réalité, quand on a eu terminé l'expérience et qu'on a reproduit la température, on s'est rendu compte qu'on avait des cristaux d'une part, ça c'était prévisible, qu'on avait un liquide magmatique, c'est-à-dire une lave, ça c'était aussi prévisible, mais en réalité ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on avait deux types de laves différentes. Et une de ces laves est extrêmement enrichie en fer et très appauvrie en silice. Et la cristallisation de cette lave permettrait de créer des gisements de fer. Pour la première fois, on a une évidence pour dire que ces gisements de fer peuvent être d'origine magmatique. Alors, on pourrait se demander, on a reproduit ça en laboratoire, pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu ça dans la nature, si cette lave se forme, pourquoi est-ce qu'on ne la voit jamais? Nous, ce qu'on pense, c'est que cette lave, puisqu'elle est très riche en fer, elle est très dense, et donc il est très peu probable qu'elle arrive à la surface de la Terre. Elle va plutôt rester bloquée en profondeur, à quelques kilomètres dans la croûte, et nous pensons que c'est pour ça qu'il y a très peu d'évidence, voire pas d'évidence, pour une lave de telle composition à la surface de la Terre.
En bref, Zoé, dans une étude publiée mardi, des scientifiques japonais ont analysé de massifs gisements de terres rares dans les fonds marins de l'océan Pacifique et fondent de grands espoirs sur cette découverte.
Ces gisements découverts en 2013 au large de l'île de Minami-Torishima, à quelques 2000 km au sud-est de Tokyo, pourraient contenir plus de 16 millions de tonnes de ces minéraux précieux utilisés dans la fabrication de produits de haute technologie, comme la construction d'éoliennes, de batteries, de véhicules hybrides, de LED ou encore d'écrans. Tout ça demande ces fameuses terres rares. Alors, en l'occurrence, ces fonds précis pourraient représenter plusieurs centaines d'années de la consommation mondiale de ces minéraux, expliquent les auteurs de cet article. Alors, le problème majeur reste toujours l'exploitation de ces boues qui, à de si grandes profondeurs, restent encore aujourd'hui techniquement difficiles, voire impossibles.
Et on parle encore de fossiles de dinosaures dans notre rubrique Science Improbable.
On aime ça, les fossiles de dinosaures. Et bien, sachez que 2 squelettes de dinosaures ont dépassé mercredi à Drouot le prix d'1,5 million d'euros lors d'une vente aux enchères. C'est ce qu'a annoncé en tout cas l'hôtel des ventes. Le marché des fossiles n'est plus réservé aux scientifiques. Les dinosaures sont devenus très cool, très blanchés. Ce sont de vrais objets de décoration, comme des tableaux, expliquait l'un des experts de cette vente, Jacopo Briano, qui a travaillé notamment pour mettre en relation les maisons de vente avec des acteurs comme Leonardo DiCaprio ou Nicolas Cage, qui sont, figurez-vous, très friands de ces ornements. D'ailleurs, Nicolas Cage en a acheté plusieurs et il a dû rendre l'année dernière un crâne de tarbosaure bâtard qui était en fait sorti illégalement de Mongolie et qu'il avait acheté. Il y a des nouveaux clients et d'ailleurs, certains d'entre eux ont acquis certains des fossiles qui étaient en vente cette semaine. Les Chinois, par exemple, qui s'intéressent de plus en plus à la paléontologie, qui essayent d'en acheter de plus en plus des fossiles pour leur musée. Et ces nouveaux acheteurs viennent s'ajouter à grands groupes industriels américains. Sachez qu'il y a des grandes fortunes européennes qui s'achètent ce type de fossiles. Et surtout, les entreprises McDonald's, Walt Disney se sont associées au musée de Chicago pour acheter des fossiles, les exposer dans leur hall. Dernièrement, on a vendu une très belle pièce à une famille vénitienne, expliquait toujours cet expert au Figaro. Ils ont une grande pièce magnifique dans leur palais dans laquelle le dinosaure était parfaitement à l'aise. Alors sachez par exemple que les carnivores ont largement plus la cote que les dinosaures végétariens. Alors évidemment, ceux qui en souffrent le plus, ce sont les paléontologues, que ce soit ceux des institutions et surtout les paléontologues qui voudraient en acheter pour leur propre plaisir. Ce sont des prix complètement aberrants et ça tristait cette semaine Ronan Alain, qui est paléontologue au musée d'histoire naturelle. C'est un monde du luxe, c'est pas fait pour des gens comme nous. On pourrait décider de faire préemption, mais avec l'arrivée pour le théropode qui doit être vendu la semaine dernière par exemple, ça voudrait dire qu'il faut qu'on débourse plus d'1 million d'euros, ce qui évidemment ni des petits paléontologues privés ni certains musées ont ne peuvent dépenser aujourd'hui.